journal, Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour à tous. Pas de cinquième mandat pour Bouteflika, c'est ce que réclament les jeunes Algériens depuis plusieurs semaines. À leur voix s'ajoutent aujourd'hui d'autres voix venues de France, cette fois avec des manifestations de soutien au mouvement, notamment à Paris en ce moment même. Philippe Barbarin, grand absent de la messe de ce dimanche à Lyon, le cardinal tout juste condamné pour non-dénonciation d'un prêtre pédocriminel, fait pourtant beaucoup parler dans son diocèse. Nous y étions ce matin. Quelle conclusion pour le grand débat national? Le ministre chargé de son organisation donne des pistes aujourd'hui. Il évoque des propositions concrètes à partir d'avril et jusqu'à l'été. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le loto du patrimoine. 18 monuments qui vont en bénéficier viennent d'être révélés. Et sur la situation à Mayotte, un an après une opération île morte qui avait abouti à la nomination d'un nouveau préfet. Il sera justement l'invité de notre droit de suite. La crise en Algérie dépasse désormais les frontières du pays. Abdelaziz Bouteflika lui-même était à Genève jusqu'à aujourd'hui. Il doit en principe atterrir à Alger dans la journée. Hier, plusieurs centaines de personnes manifestaient en Tunisie contre le cinquième mandat du président algérien. Et aujourd'hui, c'est en France que sont organisés plusieurs rassemblements de soutien au mouvement de colère de l'autre côté de la Méditerranée, notamment à Marseille et à Paris. Bonjour Mathilde Doimi.
Bonjour Olivier.
Vous êtes justement en direct de la manifestation parisienne qui se trouve sur la place de la République.
Oui, et comme en Algérie, ici aussi, l'ambiance est très festive. Hymne national ému et fier pour lancer ce rassemblement de soutien. Mais très vite, le besoin de crier sa honte prend le dessus, dit Fatira.
Il y en a marre, ils ont volé.
Ah, petit souci technique de liaison avec Mathilde Doimi en direct de la place de la République. Voilà, on peut le rediffuser éventuellement, ce son de cette personne qui est à la manifestation d'Algérie.
Comme en Algérie, l'ambiance est festive, hymne national ému et fier pour lancer ce rassemblement de soutien. Mais très vite, le besoin de crier sa honte prend le dessus, comme Fatira.
Il y en a marre, ils ont volé, c'est le tour des jeunes maintenant. C'est un pays riche, rendre aux Algériens leur dignité. On a honte, on veut un président, un vrai.
Le président Bouteflika pourrait rentrer aujourd'hui à Alger après 2 semaines d'absence, mais ça ne changera rien, disent les Algériens de France.
Il y en a marre de ce pouvoir. Cassez-vous. Le peuple, il est au courant de tout. Il y en a marre de ce pouvoir. Bouteflika, il est malade, le pauvre. Laissez-le, il se repose. Laissez-le, il se repose. On n'a rien contre Bouteflika.
Ici, tout le monde parle d'histoire en marche, sans retour possible en arrière. C'est l'ensemble du système qui est remis en cause. Mais la sortie de crise sera pacifique, veut croire Salim.
Il faudrait que ça se fasse de façon graduelle, une transition, c'est-à-dire une assemblée constituante qui prend en considération toutes les parties de la population, les islamistes, les démocrates, etc. De telle façon qu'il s'en dégage un consensus. Et c'est essentiel.
Certains appellent à un discret soutien de la France au peuple algérien, d'autres craignent au contraire une ingérence et se disent confiants, relevant que cette semaine, d'habituels soutiens au pouvoir ont pris leur distance.
Mathilde Doimi en direct de la place de la République à Paris avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Ce n'est pas tous les jours que France Inter vous emmène à la sortie de la messe du dimanche, mais celle-là était bien particulière. Elle se déroulait à Lyon, le diocèse du cardinal Barbarin, tout juste condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédocriminels. Philippe Barbarin avait ensuite annoncé sa démission. Il n'a pas célébré la messe ce matin. L'affaire n'a à aucun moment été évoquée pendant la cérémonie, mais elle est dans la tête de nombreux paroissiens, Jérôme Jadot.
Bouc émissaire, acharnement, avant de s'engouffrer dans la cathédrale, beaucoup de paroissiens lâchent ces mots. Pour une partie d'entre eux, le cardinal Barbarin est tout simplement victime d'une erreur judiciaire.
C'est pas lui qui est responsable. Il n'est pas responsable de tout. Il y a des directeurs qui dirigent 10 000 personnes. Ils ne sont pas responsables de chaque problème qu'il y a dans leur entreprise.
Il a été au courant puisque il y a une victime qui est venue lui en parler.
Je trouve ça parfaitement scandaleux, c'est tout.
Défiance dans la justice des hommes, certains fidèles préfèrent s'en remettre à la future décision du pape. Plusieurs, comme Marie-France, sont tiraillés entre le respect pour leur archevêque et le souci du sort des victimes.
Je suis triste pour l'Église catholique de ne pas avoir assumé ses horreurs. Monseigneur Barbarin est sûrement quelqu'un de très bien. C'est dommage qu'il y ait eu ce manque de vision.
Au-delà du cas du cardinal, c'est pour Catherine une réforme en profondeur des procédures internes à l'Église qui est désormais nécessaire.
pensait qu'on pouvait peut-être régler en interne certaines déviances et qu'on n'avait pas besoin de la justice du monde. Mais je crois que c'est faux. On a eu l'impression qu'il n'y avait pas suffisamment de place faite aux victimes.
Pour quelques fidèles, la clé réside aussi dans une autre réforme, la fin du célibat des prêtres, pour éviter, disent-ils, certaines déviances sexuelles.
Alors que le grand débat national et ses dizaines d'heures d'intervention présidentielle arrivent petit à petit à sa fin, le gouvernement et le parti La République En Marche commencent à dessiner la forme que prendra la conclusion de cette séquence. Dans un entretien au journal du dimanche, Sébastien Lecornu explique qu'elle se terminera en avril, avant plusieurs semaines de propositions et d'actions. Le ministre co-animateur du grand débat national évoque plusieurs pistes que décrypte pour nous Élodie Forêt.
Avec la promesse d'abord d'une réponse jusqu'à l'été, des propositions qui seront déclinées au fur et à mesure. Des propositions, nous dit le ministre, qui ne seront pas corsetées. L'idée qu'il faudra faire des choses différemment est une évidence, admet-il, ajoutant pour preuve ces thèmes inédits qui ont émergé et qui seront pris en compte. La lutte contre la spéculation, contre les inégalités salariales ou encore la revalorisation du métier d'enseignant, sans compter sur la contribution du parti présidentiel qui sera dévoilé cet après-midi à Chartres. Son patron Stanislas Guérini espère bien imposer ses idées comme la réindexation des retraites les plus modestes sur l'inflation. Des propositions et un débat qui migrera début avril vers l'Assemblée nationale. Mais c'est bien Emmanuel Macron en avril toujours qui donnera le là avec un discours qui ouvrira le temps de l'action. Quant à l'option référendaire pour Sébastien Lecornu, le président se laisse le choix.
Loto du patrimoine, deuxième comme l'an dernier. Les ventes de tickets de cette loterie serviront à financer l'entretien de monuments historiques. Une vingtaine de sites bénéficieront de cette nouvelle édition, 18 pour être précis. Ils viennent d'être révélés par Stéphane Bern, nommé responsable du patrimoine par Emmanuel Macron l'an dernier. 5 de ces sites sont en Outre-mer et tous sont très différents.
Ces 18 sites emblématiques montrent la diversité du patrimoine. Les photos de ces sites apparaîtront sur les tickets de grattage pour montrer justement la diversité de notre patrimoine. Il y a du patrimoine industriel comme le viaduc des Fades en Auvergne, c'est dans le Puy-de-Dôme, comme la glacière d'Étel, c'est une ancienne glacière de Tonnier, c'est dans le Morbihan. Il y a des anciens édifices religieux comme l'abbaye Sainte-Marie de Longue-sur-Mer et puis surtout cette abbaye de Notre-Dame de Sénanque dans le Vaucluse qui manque de ses effondré et qui a besoin d'urgence de travaux de sauvegarde. Pour la première fois, on met une bibliothèque, la bibliothèque Fèche d'Ajaccio, qui a besoin complètement d'être revue. Si vous voulez, ça montre la diversité du patrimoine qui a vraiment besoin de l'aide des Français, parce qu'autrefois, c'était les Américains qui venaient sauver le patrimoine. Aujourd'hui, eh bien, on peut se sauver nous-mêmes.
Stéphane Bern au micro ce matin de Matteo Maestrachi de France Info. Et puis, notez que plusieurs lignes de train sont interrompues ce dimanche dans le nord de la France. À cause des vents violents, il s'agit des lignes suivantes. Creil-Amiens, Creil-Compiègne, Soissons-Lens, Boulogne-Abbeville, Saint-Paul-sur-Ternoise-Béthune, Cambrai-Busigny et Aulnois-Hirson. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de notre droit de suite. Retour sur une actualité qui a marqué l'année passée et sur ce qui s'est passé après. Cette semaine, direction Mayotte, 101e département français. Il y a un peu plus d'un an, elle était paralysée par une grève générale et des barrages routiers. Une opération île morte pour demander à l'État français de s'investir encore plus dans la gestion de Mayotte, notamment sur la question de l'insécurité et de l'immigration clandestine. Un investissement que les Mahorais avaient fini par obtenir. Petit rappel sonore avec Béatrice Duguay.
Quand Annick Girardin arrive à Mayotte, il y a un peu moins d'un an, l'accueil est, disons, orageux.
Si jamais vous n'avez pas ce mandat interministériel, nous ne trouvons pas la légitimité nécessaire pour discuter avec un interlocuteur qui ne l'est pas.
Je suis la ministre de l'Outre-mer. Jamais vous avez vu la ministre de l'Outre-mer. Donc je n'accepterai pas certaines remises en question de ma légitimité.
Quelques semaines plus tard, elle propose un plan pour l'avenir de Mayotte. 125 actions, 53 engagements dans quasiment tous les domaines. Un plan qu'accompagne un nouveau préfet. Aujourd'hui, la situation, notamment sécuritaire, s'est un peu améliorée avec des forces de l'ordre supplémentaires. Et puis, des associations ont aidé les policiers à lutter contre la délinquance de jeunes voleurs, explique Tony Mohamed, président d'Espoir et Réussite.
À Mayotte, certains parents mettent au monde des enfants, mais ils sont les enfants de l'État. Il a fallu donc changer cette mentalité et là, on a travaillé avec la police nationale et donc un partenaire pour que les parents prennent leurs responsabilités parce que ce sont quand même l'acteur premier pour l'avenir de leurs enfants.
Une police de proximité a depuis pris le relais. Saïd Saïd Hachim est plus sceptique quant à l'avancée du plan. Enseignant en géographie, syndiqué à la CFDT, il a participé à l'élaboration d'une plateforme d'une centaine de propositions pour son île et aujourd'hui, il s'impatiente.
Pourquoi la République ne permet pas justement de partager les difficultés de Mayotte ? Je paye le timbre fiscal au même prix que vous. La taxe d'habitation est plus élevée que la plupart des villes agglomérations françaises. On paye des... Pourquoi on n'a pas les mêmes avantages ? Pourquoi ?
Pour voir un rectorat et une agence régionale de santé à Mayotte, il faut attendre encore un an. Au rayon des priorités, de nombreux Mahorais réclament l'allongement de la piste de l'aéroport, l'aménagement du port et des routes, ainsi que des moyens pour la formation.
On le disait, le plan d'action pour l'île de Mayotte a donc été confié à un nouveau préfet, Dominique Sorin, qui est en ligne avec nous ce dimanche. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On imagine qu'être nommé préfet à Mayotte dans le contexte de l'époque, ça ne ressemble pas forcément à un poste plus classique. Qu'est-ce qui vous a marqué en premier dans la situation de l'île en y prenant vos fonctions ? C'était quoi le défi en particulier en arrivant ?
Tout d'abord, l'île était bloquée depuis plus d'un mois et demi, complètement bloquée avec une vingtaine de barrages, avec des revendications que vous avez rappelées sur l'insécurité, l'immigration, puis le sentiment d'abandon très certainement des Maoris. Il faut le dire comme ça très, très nettement. Et il fallait redonner en quelque sorte confiance en la matière et obtenir des résultats rapidement. Sur l'insécurité, beaucoup de moyens ont été engagés, de moyens supplémentaires. Il y a eu plus de 150 policiers et gendarmes qui ont été affectés dans l'île. De nouvelles méthodes ont été retenues, on a testé de nouvelles méthodes, la police de proximité notamment, et nous avons une baisse de la délinquance, avec des engagements très, très variés. On a une baisse de 10% à peu près de la délinquance sur un an, ce qui est significatif. C'est plus important encore pour les cambriolages. Mais il y a aussi la lutte contre l'immigration, qui est un point important. Il faut rappeler qu'à Mayotte, 48% de la population est étrangère. Cette part est passée de 40% en 2012 à 48% en 2017. Donc il faut lutter contre, en quelque sorte, ce qu'on a baptisé l'écosystème de l'immigration clandestine.
Alors c'est pas forcément la seule source de délinquance ou d'insécurité. Il y a aussi peut-être des questions d'éducation ou de manque de moyens.
Ah aussi, bien sûr. Il y a aussi, mais je vais y venir, mais il faut déjà lutter contre ce qui est le travail illégal qui empêche le développement des entreprises, lutter contre les formes d'habitat illégal également. Et ça, c'est une nécessité si on veut bien comprendre l'évolution de ce territoire, de ce petit territoire. Donc la population a augmenté de 20% en 5 ans aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais après, il y a de très nombreux équipements qu'il nous faut mettre en construire, et les équipements scolaires notamment. Cela en fait partie. Il y a un plan très important de 500 millions d'euros sur le quinquennat de construction de collèges, de lycées, d'écoles primaires. C'est l'eau potable, c'est l'assainissement, c'est le logement, ce sont les routes, ce sont des équipements, parce que Mayotte est dans une situation de sous-développement et qu'il faut à tout prix rattraper. Plus de 35% des personnes vivent dans ce qu'on appelle de l'habitat informel, des bidonvilles, véritablement, c'est ça. Mayotte aussi.
Petit territoire avec une population donc qui explose et notamment des enfants ou des jeunes. En tout cas, c'est pour ça que vous parliez de la nécessité de construire de nouveaux équipements éducatifs.
Oui, 50% de la population moins de 17 ans et demi. Aussi, ce sont des chiffres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, Mayotte. Nulle part sur le territoire hexagonal, mais nulle part aussi sur les territoires ultramarins. Donc, il faut pouvoir continuer. Et le plan a été mis en œuvre, nous avons commencé à le mettre en œuvre. Alors c'est l'État et les collectivités territoriales qui le mettent en œuvre. Donc ceci a été lancé au cours de l'année 2018. Mais ce plan n'est pas un point d'aboutissement non plus. C'est un effort qu'il va falloir continuer à réaliser dans les années à venir.
Les Mahorais l'année dernière dénonçaient souvent le fait que Mayotte serait un département mal aimé de la France. Ils ont été entendus aujourd'hui dans ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Ils ont l'impression que ça va mieux de ce côté-là.
Alors, il y avait une question de confiance pendant cette crise qui a été très forte. Donc, Mayotte a connu de nombreuses crises. Mayotte a fait le choix d'être français dans l'environnement que nous connaissons. Il y a de très très fortes attentes légitimes pour avoir les mêmes droits, que les autres parties du territoire. Donc il y a un rattrapage qui était nécessaire. Mick Girardin l'avait dit d'ailleurs lors de ce déplacement, que les gouvernements n'avaient certainement pas fait suffisamment de choses pour Mayotte. Il convient de rattraper cette situation et de continuer, d'abord dans les plans qui ont été lancés. D'ailleurs, le plan qui a été annoncé l'année dernière, c'est un plan qui s'est voulu pratique, c'est-à-dire avec des réalisations, à lancer tout de suite. C'est pas un plan, je dirais, malheureusement. Il y a pu y avoir aussi des plans de développement quelque peu théoriques.
C'était donc un premier pas, en tout cas, vers ce redéveloppement de Mayotte.
C'était un premier pas aussi
pour redonner confiance aux Mahorais. Merci beaucoup, Dominique Sorin, préfet de Mayotte, en ligne avec nous en direct. Donc, la tribune adressée cette semaine aux électeurs européens par Emmanuel Macron continue de faire réagir après Laurent Wauquiez hier, notamment. C'est au tour de celle qui sera peut-être la prochaine chancelière allemande de publier une tribune en réponse à celle du président français. Annegret Kramp-Karrenbauer, nouvelle patronne de la CDU, y explique comment bien faire l'Europe. C'est le titre de son texte, Nathalie Versieux.
Si la possible future chancelière de l'Allemagne approuve les propositions françaises en matière de sécurité et de défense, elle prend clairement ses distances sur le terrain de la politique économique et sociale. Le centralisme européen, l'étatisme européen, la mutualisation des dettes, l'européanisation des systèmes sociaux et du salaire minimum seraient la mauvaise voie. Fin de citation. AKK ne mentionne pas l'idée chère au président Macron d'un budget de la zone euro, mais évoque la possibilité d'un budget d'investissement commun dans la recherche, le développement et les nouvelles technologies. Kramp-Karrenbauer serait par ailleurs favorable à la suppression du second siège européen de Strasbourg et pour un siège européen au Conseil de sécurité de l'ONU, deux points de nature à irriter un peu plus l'Élysée. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Et puis on l'a appris tout à l'heure, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé tôt ce matin. Un Boeing 737 qui desservait Nairobi depuis la capitale éthiopienne, Addis Abeba. À bord, 149 passagers, 8 membres d'équipage. Pas un seul n'a survécu, selon la compagnie. Ethiopian Airlines est l'une des plus importantes compagnies aériennes d'Afrique avec plus de 10 millions de passagers transportés par an. Quand le plus célèbre et le plus taquin des photographes britanniques a les honneurs d'une exposition en pleine National Portrait Gallery de Londres, forcément, on se doute qu'on va avoir le sourire pendant la visite. Ce photographe, c'est Martin Parr. Il expose 260 clichés sur le thème de l'identité britannique, dont une salle complète entièrement consacrée au Brexit, avec un mauvais esprit délicieux. Notre correspondant à Londres, Antoine Gignot, est allé se mêler aux visiteurs.
C'est une exposition à la fois cynique et irrésistiblement drôle. À l'entrée de la salle consacrée au Brexit, Martin Parr a choisi pour accueillir les visiteurs une gigantesque photo de bord de mer, drapeau rouge sur la plage. Les familles de dos regardent les vagues qui s'apprêtent à déferler sur le sol britannique. Au milieu des banderoles et des tatouages nationalistes, petite pointe de nostalgie pour Shannon et Patty.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là en aussi peu de temps, être à Londres pour les Jeux Olympiques? C'était une telle célébration du multiculturalisme. Parce que c'est ça, être britannique, c'est être ouvert, large d'esprit.
Et drôle.
Oh oui, drôle, modeste aussi.
Ça a disparu.
Pourtant, pas de jugement du photographe. C'est un état des lieux que fait Martin Parr, explique la commissaire de l'exposition, Sabine Yaskot-Gir.
Il est allé dans des endroits où beaucoup de gens ont voté pour sortir de l'Union européenne. Mais il y a aussi des images de la diversité avec la rupture du jeûne du Ramadan à Bristol. Ça montre vraiment comment le Royaume-Uni a changé en tant que nation.
Et de ce patchwork de chapeaux haute forme, de touristes anglais sur la Côte d'Azur et de fêtes de familles sikhs émergent malgré tout une formidable énergie et un sourire salvateur à 20 jours du Brexit. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Ça s'appelle Only Human, une exposition qui dure jusqu'au 27 mai à la National Portrait Gallery de Londres. Dans un peu moins de 3 heures, le 15 de France s'attaque à la deuxième meilleure équipe du monde derrière les All Blacks, l'Irlande, que les Français vont aller taquiner à partir de 16h à Dublin. Jérôme Val, vous êtes déjà sur place, bonjour.
Bonjour Olivier.
On ne va pas se le cacher, les pronostics ne sont pas franchement en notre faveur, surtout après la déculottée du mois dernier, un 44-8 contre l'Angleterre. Est-ce qu'on risque à nouveau un tel naufrage ?
Écoutez, cette déroute anglaise avait placé ce 15 de France au fond du fond d'un sillon de médiocrité qu'il avait creusé lui-même depuis bien longtemps et dont il est à peine sorti au bénéfice d'une victoire contre l'Écosse il y a 2 semaines. Succès important pour ne pas s'enfoncer un peu plus, pour la confiance, mais qui ne doit pas bercer les Bleus dans l'illusion. Cette équipe de France n'a plus gagné 2 rencontres de suite depuis 1 an. Et l'histoire récente nous rappelle qu'elle ne s'est plus imposée dans les îles britanniques depuis 5 ans et que l'Irlande n'a perdu qu'une seule fois face à la France depuis 2012. Alors on pourrait se rassurer avec une équipe d'Irlande bien moins tranchante que l'année dernière. Elle a eu toutes les peines du monde à venir à bout de l'Italie, mais elle reste, vous l'avez rappelé, la deuxième nation mondiale derrière les intouchables All Blacks néo-zélandais. Alors au-delà d'un un hypothétique résultat positif ici à Dublin, on scrutera plus l'état d'esprit, l'implication de ces Bleus, le comportement de la jeune génération. Et si le contrat est rempli sur ce plan-là, alors oui, les Bleus devraient éviter une nouvelle déculottée.
Merci beaucoup Jérôme Val-Irlande France. C'est tout à l'heure, coup d'envoi à 16h.